Le thème de ce matin, c'est la justice sociale. Et le texte de base que je vais utiliser se trouve dans Matthieu. Dans Matthieu 25. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. Un mot sur les Bibles. S'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible personnelle, n'hésitez pas à la fin du culte à venir me voir au Jérémia, parce que nous avons des Bibles et c'est très important que chacun ait sa Bible. Si vous avez trouvé la page, je vous invite à vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Matthieu 25, 31 à 46. Nous allons lire au nom du Seigneur. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume, car qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors ils lui répondront à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service ?» Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel. » Tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur. Seigneur, nous savons que cette parole est vivante, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, que cette parole vivante, Seigneur, pénètre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions la comprendre et la méditer, la mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous annulons, Seigneur, tout ce que l'ennemi veut faire en cet instant, Seigneur. Que toi seul sois au contrôle par ton Esprit Saint, Seigneur. Nous glorifions ton Saint Nom et nous demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, il est vrai que le Matthieu 25, à partir du verset 31, se présente beaucoup plus comme le jugement de Christ. Mais dans ce jugement, il y a des éléments intéressants que nous voyons, notamment dans les versets 35 et 36, où Christ va parler de ce qu'il attend de celui qui a placé sa confiance entre les mains de Dieu. Pour comprendre ces textes, en arrière-plan, ce que nous avons lu ce matin est très important, le Luc 20, qui nous rappelle que Christ présente Dieu comme notre priorité. Mais ensuite, après avoir dit « j'aime Dieu », je dois aimer mon prochain comme moi-même. C'est très important d'avoir ça en arrière-plan. Et en arrière-plan aussi, c'est important d'avoir ce que Christ annonce aux disciples. Et lorsqu'on devient disciple du Christ, c'est un des textes qu'on connaît très vite, c'est le Matthieu 28, à partir du 19, où Christ dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin des temps. » Je souligne bien la partie où Christ « Je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et vous comprenez pourquoi que dans cet échange entre ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche, il leur dit « À chaque fois que vous avez vu des gens en difficulté, à qui vous n'avez pas donné, c'est à moi-même que vous n'avez pas donné. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. » C'est important d'avoir ça en arrière-plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir étape par étape sur tout ce que Christ souligne d'extrêmement important et ce qu'il attend de nous. C'est Dieu qui donne le discernement. Même lorsque je veux aider, je vous rappelle que Christ a chassé les personnes qu'il y avait dans le temple parce qu'il leur a dit « La maison de mon Père est une maison de prière. » Le monde me dit « J'agis et après je vois. » La Bible me dit « Je prie et après Dieu me fait agir. » Tout commence par la prière. Donc dans ce que nous lisons, il faut bien comprendre qu'il y a une partie matérielle, mais il y a aussi une partie spirituelle. Et les deux vont ensemble. Et je rappelle que les choses sont d'abord spirituelles avant de devenir matérielles. Dieu dit d'abord que la lumière soit, ensuite la lumière arrive. Donc le spirituel, c'est ce qu'il a dit. Le matériel, c'est ce qui se produit. Christ dit dans les versets 35 et 36, il commence par dire « J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. » Il emmène en fait le chrétien à penser à celui qui est dans le besoin matériel. Et dans le besoin matériel, puisque nous parlons de l'amour de Dieu, souvenez-vous bien que nous allons, la base, c'est l'amour de Dieu, et bien celui qui a accepté le Seigneur doit se revêtir de l'amour de Dieu et se soucier de celui qui n'a pas mangé, qui a faim, est une façon de se revêtir de l'amour de Dieu. La surprise, voyez-vous, c'est que lorsque Christ arrive sur cette terre, il a des échanges avec les pharisiens et des gens de mauvaise vie. Mais les pharisiens qui connaissaient la parole ne vont pas échanger avec Christ comme ceux de mauvaise vie. Je vous prends un exemple. Dans Luc 19, versets 1 à 9, nous avons l'histoire de Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Retenez bien, « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La réaction de la foule, c'est de dire, Zachée est un homme éloigné de Dieu. Mais les œuvres dans la foi montre que Zachée était quelqu'un qui était proche de Dieu, puisque ça nous embouche un coin. Hein. Il donne la moitié de ses revenus aux pauvres. Si déjà dans la salle, Christ venait nous demander qui donne la moitié de ses revenus aux pauvres, mes chers amis, mes bien-aimés, le scandale commence là. Ça devient dur de discuter avec Jésus. Et il y a encore du boulot. Et ce que j'aime dans l'Évangile, c'est qu'il nous replace au niveau où nous sommes réellement. Donc, ça c'est un challenge pour nous. Quel est le pourcentage que je donne aux pauvres? Souviens-toi de ce que tu donnes aux pauvres. La Bible nous donne aussi dans l'Ancien Testament un témoignage de quelqu'un qui était dans le besoin et là de quelqu'un sur qui Dieu a agi. C'est la veuve de Sarepta, 1 Rois 17, versets 1 à 16. Nous aurons beaucoup de lectures ce matin. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher. Je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Et lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. » Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. » Vous voyez comment la foi peut être éprouvée pour le prophète ? Que Dieu dirige, c'est la partie spirituelle. Dieu te dirige pour aller vers là où il y a le besoin, mais là où lui, il a choisi. Le prophète aurait pu dire, « Non, moi, je ne veux pas aller à Sarepta, comme Jonas. Moi, je ne veux pas aller à Ninive. J'aime pas ces gens-là. Pourquoi je dois aller à Sarepta ?» Le prophète obéit à ce que Dieu veut. Et la surprise, c'est de voir que le Seigneur va se présenter à travers son prophète devant quelqu'un de démuni, mais à qui il va demander de lui donner. Dieu fait toujours des choses extrêmement surprenantes. La veuve n'a rien à manger. Le prophète lui demande à manger.
Mais la veuve n'a pas encore compris que la grâce va entrer dans sa maison, puisque désormais le Seigneur va pourvoir à ses besoins. Donc comprends bien que lorsque tu donnes, ne te mets pas en calcul de dire « mais si je donne 50, il ne me restera que 5 dans ma poche ». Vous comprenez ? C'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Ne l'oublie pas dans ton discernement. C'est en Dieu qui pourvoit aux besoins. C'est pour ça que Christ a expliqué lors de l'offrande que la vieille dame qui donnait a plus donné que tous les autres. Parce qu'elle a mis sa foi en avant. Chers amis, bien-aimés, il arrive des moments dans la vie où il faut mettre sa foi en avant. Sinon, c'est un Dieu de paille que tu as. Si ton Dieu est l'Éternel des armées, laisse-le diriger ta vie lorsque tu donnes. Laisse-le te rendre démuni comme la veuve de Sarepta pour que tu aies des richesses, selon le plan du Seigneur. Christ dit une autre chose. Il dit, j'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. Ou j'ai eu soif pour toi qui es à ma droite et tu m'as donné à boire. N'oublie pas que tu dois aimer ton prochain et tu ne peux passer à côté des situations périlleuses ou difficiles qu'il y a autour de toi, dans ta famille, dans ton église. Tu ne peux pas fermer les yeux sur le fait de dire « il y a des démunis, mais Dieu pourvoira ». Mais dans le « Dieu pourvoira », c'est peut-être toi que Dieu a mis pour que tu puisses pourvoir. Encore faut-il que tu te mettes à genoux pour demander au Seigneur « comment tu dois donner ?» Matthieu 10, 42. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Lorsque tu donnes, tu ne perds point ta récompense. Christ dit aussi, vous voyez, c'est toujours très intéressant de faire un parallèle avec l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait aussi cette justice sociale dont le Seigneur Jésus parle. Ce ne sont pas des nouveautés, en fait. Ces choses ont aussi été écrites dans l'Ancien Testament parce que dans Deutéronome 24, versets 10 à 15, il est dit, « Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. » Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. La parole nous rappelle que pour celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien sûr que aimer ton prochain comme toi-même commence déjà par le frère en Christ ou la sœur en Christ que tu as à côté de toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà du frère en Christ ou de la sœur que tu as à côté de toi, il y a aussi un frère ou une sœur avec qui tu as le lien adamique, puisque tu portes un corps d'homme. Tu ne dois pas oublier aussi celui qui a la même nature que toi. Ce matin, nous avons vu l'exemple du bon samaritain qui était dans une situation extrêmement difficile. Et voyez-vous, c'est un véritable clin d'œil parce que ceux qui connaissaient la parole sont passés à côté. Ils connaissaient cette parole de Deutéronome. Ils ont vu quelqu'un dans le besoin, mais ils sont passés à côté. Mais faites quand même attention sur l'exemple du bon samaritain parce que s'il fallait reprendre nos vies, et revoir si nous sommes passés à côté des gens démunis, je pense qu'il y aurait des DVD qui dureraient des heures et des heures. Christ nous interpelle parce que vous voyez, le bon samaritain avait des besoins. Et ces besoins n'étaient pas perçus par ceux qui sont passés à côté. Mais on peut aussi regarder sous l'angle spirituel cette situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est dans le besoin spirituel, qui souffre dans sa relation avec le Seigneur parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas mis en règle. Est-ce que tu prends le soin de le soigner? Les soins viennent de la parole de Dieu qui est vivifiante. Les soins viennent de l'encouragement que tu vas donner à un frère ou à une sœur à travers un psaume que tu as lu, à travers un texte qui t'a fortifié. Mais effectivement, les soins, le texte nous rappelle que les soins sont aussi matériels. Parce que fait le bon samaritain? C'est que lorsqu'après on arrive devant l'hôtellerie, il sort 2 pièces qu'il donne. Donc à un certain moment, je vais sortir quelque chose de matériel. Mais avant de sortir quelque chose de matériel, je dois sortir quelque chose de spirituel. Donc en fait, c'est quelque part un non-sens de se présenter devant des pauvres et de ne pas leur présenter la source d'eau vive qu'est Jésus. Parce que vous voyez, le Seigneur est perturbant, c'est le même qui dit « Les pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. » Parole du Seigneur. Jusqu'à la fin, les pauvres existeront toujours. On ne peut pas contredire la Bible. Vous savez qu'il y a des gens qui ont essayé de contredire la Bible, les 3/4 se sont convertis. On ne peut pas convertir la Bible. On ne peut pas contredire la Bible. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et comme la parole de Dieu est vérité, elle est faite pour exécution. Quand Dieu dit, ça s'exécute. Ce n'est pas comme nous. Si je dis, ma fille vient, ma fille peut dire, je ne viens pas. Mais quand Dieu dit, ça s'exécute. Donc voyez-vous, le bon samaritain, à un moment, on va emmener celui qui est blessé à l'hôtellerie. On peut voir l'image de l'hôtellerie, on peut avoir 2 images sur l'hôtellerie. Spirituellement, on peut dire que l'hôtellerie, c'est l'Église. Quand vous récupérez quelqu'un qui est dans des difficultés spirituelles, à qui vous avez présenté Christ, il ne faut pas le laisser dans la rue. Il faut bien qu'il aille à un endroit où il sera nourri, où il sera soigné. Mais l'image aussi de cette hôtellerie, on peut la reprendre et dire que ça peut être aussi l'hôpital. Si vous rencontrez quelqu'un qui a des difficultés physiques, vous avez prié pour lui? Mais Dieu peut vous donner aussi la sagesse de l'emmener dans un hôpital. Mais arrivé aussi dans l'hôpital, on peut vous dire que cette personne n'a pas de sécurité sociale et il faut payer. Vous n'allez pas le déposer aux urgences et partir en courant. Ce qui est bien aux urgences, c'est qu'il y a désormais des caméras, donc c'est très intéressant. Donc du coup, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche parce que Christ nous emmène à aller jusqu'au bout. Je vous rappelle que ceux qui sont à la gauche de Christ sont rejetés parce qu'ils n'ont rien fait ou ils ont partiellement fait. Ou partiellement fait. Parce que vous savez que même dans le monde, il y a des gens qui aident. Ça existe. Ça existe, des gens qui aident. Mais ils n'aident pas de la même façon que celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous voyez, la parole de Dieu, c'est un véritable clin d'œil parce qu'on a parlé du bon samaritain, mais après on est surpris de voir dans Jean 4, Jésus qui discute avec la samaritaine. Vous voyez l'égalité homme-femme, ça revient là. Le bon samaritain est pris en exemple, maintenant c'est la samaritaine qui est présentée. Et la samaritaine, elle a un problème, elle est devant un puits et elle a quelqu'un en face de lui qui lui dit « donne-moi à boire ». Mais la Samaritaine ne comprend pas que c'est elle qui a soif et que celui qui est assis, c'est le torrent d'eau vive. Elle ne comprend pas. Souvent, quand on rencontre Jésus, les débuts sont difficiles, on ne comprend pas grand-chose. Pourquoi se met-il à côté d'un puits alors que lui n'a pas soif? Mais justement, il se met à côté d'un puits pour recevoir ceux qui ont soif, pour leur apporter la bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle doit toucher les pauvres matériels, mais aussi les pauvres spirituels. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu fait grâce parce que c'est lui qui donne finalement de l'eau à cette femme samaritaine et c'est elle qui va en courant annoncer la bonne nouvelle aux autres. L'exemple de la Samaritaine et du bon Samaritain, c'est peut-être aussi un exemple pour aussi parler du mariage. Nous avons vu dimanche dernier, Jérémia nous a présenté le mariage et la sexualité. Et encore une fois, je répète, il faut bien retenir que le mariage, c'est dans le mariage qu'on parle de sexualité. C'est ce que dit la Bible. Et on ne peut pas contredire la Bible. Toute contradiction avec la parole de Dieu a des conséquences. Et lorsque dans Genèse 2, 24, le Seigneur dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme », chers amis, bien-aimés, je vous invite à regarder ce verset sous l'angle spirituel, mais ensuite sous l'angle matériel, ensuite sous l'angle sexuel. « Il s'attachera à une femme ». Je rappelle qu'on n'a pas dit « L'homme le fera seul dans son coin, la femme le fera seul dans son coin. » Le texte dit « Il s'attachera à une femme ». Donc la sexualité concerne un homme, une femme. La sexualité ne concerne pas un homme seul dans son coin, une femme seule dans son coin. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous sommes ceux qui suivent ce que dit le maître. Et si le maître le dit, nous suivons. Dans 1 Corinthiens 7, la Bible te dit que si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux que te marier vers quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne se négocie pas. Ah, peut-être qu'il est musulman, mais il est bien. Ah, peut-être que sa conversion viendra. Non, le même texte d'1 Corinthiens 7 te dit, si tu n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu t'es marié avec quelqu'un qui n'était pas croyant, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu restes avec, sauf si la personne refuse de rester avec toi. Mais le même texte dit, si tu as déjà accepté Jésus, tu n'es plus dans cette condition. Ta condition, c'est d'accepter uniquement celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, remarquez, dans l'Ancien Testament, remarquez dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a présenté à Adam les animaux. C'est surprenant, hein? Dieu présente à Adam les animaux. Mais que dit le texte? Que Adam n'a pas trouvé la personne qui lui était compatible. Je reviens dans le Nouveau Testament. Que dit la parole de Dieu de celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? La parole de Dieu dit qu'il a des instincts animaux. Vous comprenez pourquoi Adam n'est pas allé vers un animal? C'est spirituel ce que je suis en train de dire. Ne cherche pas à contredire ton Dieu, parce que tu vas vivre toi-même les conséquences. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il y a une raison, mais une raison d'abord pour toi. Sois en conformité avec ce que dit la parole. Sois obéissant. Ce n'est pas facile, notre nature elle est rebelle. Mais que Dieu te donne la force d'obéir à ce qu'il dit. Parce que c'est toi qui en tireras les bénéfices. Mais vous savez, chers amis, il ne faut pas se voiler la face. Toutes ces choses qui ont été faites en contradiction avec le Seigneur ont des conséquences dans la vie des couples. Ça a des conséquences, mes chers amis. Et il faut que Dieu restaure. Sinon, des fois, vous voyez des couples avec des gros problèmes de sexualité parce que justement, il y a eu des choses avant qui ne correspondait pas au plan de Dieu. Mais voyez-vous, Dieu nous a fait grâce parce que le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure. Le Seigneur restaure. Pour revenir dans le texte, ensuite, Jésus dit, « J'étais étranger et tu m'as accueilli. » J'étais étranger, tu m'as accueilli. Matthieu 10, versets 40 à 41. « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, celui reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Marc 9, 37, « Celui qui accueille en mon nom un de ses petits, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Toujours sur les étrangers, on peut voir dans Exode 22, 21, vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, Dieu le disait à Israël, « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Vous voyez, l'être humain est un être très curieux. Parce qu'en fait, si vous voyez la généalogie de chaque être humain, vous vous rendrez compte que tout le monde est étranger dans le lieu où il se trouve. Il n'y a qu'à remonter dans la généalogie. Vous pouvez être surpris de savoir que vous avez des ancêtres peut-être arabes, vous avez des ancêtres peut-être qui viennent de Russie, et désormais vous êtes français. Nous sommes tous quelque part étrangers. Et d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que la Bible dit que les croyants sont des étrangers sur cette terre. Notre patrie est céleste. Amen. Amen, Jésus. Merci. Parce que si j'étais citoyen du monde, quelle catastrophe. Mais Jésus, tu nous aimes et nous t'aimons. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le débat sur les étrangers fait rage, et même dans les milieux des croyants? C'est surprenant. Ne lisent-ils pas la parole? Vous comprenez pourquoi, lorsque Moïse est sur le Sinaï, et que Dieu parle, les Israélites disent à Moïse, « Moïse, peux-tu écouter Dieu et nous dire ce qu'il dit ?» Parce que c'est un langage qu'ils ne comprennent pas. Comment un croyant peut-il se poser la question s'il faut accueillir des étrangers ou pas? C'est incroyable ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas discuter puisque le Seigneur nous demande d'accueillir l'étranger. C'est biblique. Donc maintenant, ceux qui veulent s'élever pour dire « il y a trop d'étrangers, il n'y a pas assez d'étrangers », je vous invite à aller voir Dieu pour lui dire que la terre que tu as créée là, l'endroit où moi j'habite, je trouve qu'il y a trop d'étrangers. Si vous pensez que c'est une conversation que vous pouvez avoir avec Jésus-Christ, bon courage. Les questions bibliques, ce n'est pas parce que les politiques avancent les choses. Vous savez, c'est très choquant. J'ai vu un débat la dernière fois à la télé, jeudi dernier, où il y avait un homme politique qui se présente au présidentiel sans lui faire de propagande. Parce que que Dieu me donne le discernement pour savoir qui voter. Enfin, parce que j'en ai voté pour un qui a fait le mariage homosexuel. Vous voyez, hein, comment le Seigneur nous rattrape. Benoît Hamon et M. Wauquiez sont en train de discuter sur la question de l'islamophobie des étrangers. Tenez-vous bien, c'est Benoît Hamon le laïc qui dit à M. Wauquiez le catholique, mais il n'est pas dit dans votre parole que vous devez aimer le prochain? Le pape n'a-t-il pas dit que vous devez accueillir les étrangers? C'est le laïc qui dit à celui qui est censé connaître la parole ce que dit la parole de Dieu. Chers amis, c'est une honte pour celui qui se déclare croyant de tomber dans le piège du diable en ayant des dispositions avec des questions sur les étrangers. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. La Bible est claire sur cette question. Quelqu'un disait dans une prédication, pas d'interprétation sur la parole. Tout ce qu'on demande, c'est d'appliquer. N'interprétez pas, oui, non, au temps d'Israël, la zone qu'ils occupaient, géographiquement, c'était différent. Aujourd'hui, la densité par habitant. Non, 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 mon ami. Ce que Dieu t'a donné d'apprendre à l'école est utile. Mais ce qu'il te donne dans la parole est encore plus utile parce que cette parole est d'éternité. Parce que, mon ami, il ne faut pas que tu te présentes devant Jésus et qu'il te dise, tiens, c'est toi qui chassais les étrangers quand tu étais sur terre. Seras-tu à droite ou à gauche? Ensuite, la parole dit, j'étais nu et tu m'as habillé. La nudité. Jacques 2. Versets 14 à 16. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que ne leur donnez pas ce qui est de nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il ? C'est des fois surprenant de voir des débats qui peuvent exister sur la foi et les œuvres. Déjà, spirituellement, vous devez comprendre que la foi ne se dissocie pas des œuvres. Même si en français, il y a deux mots pour dire la foi, il y a dire les œuvres, mais dans le langage spirituel, foi et œuvre se confondent. Je ne peux pas dire « j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur » et voir quelqu'un qui n'a pas d'habit sur lui et dire « va mon ami, tout va bien, tu peux rentrer chez toi ». C'est un non-sens. C'est un non-sens de ne pas mettre en action la foi qu'on a reçue de Dieu. C'est un non-sens. La foi que nous avons reçue de Dieu nous demande de nous revêtir de l'amour de Dieu. Les textes de Éphésiens 6, 1 Corinthiens 13, Colossiens 3 nous rappellent la véritable nature du croyant. Et donc le croyant ne peut pas passer à côté de personnes qui sont démunies dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Mes chers amis, à un certain moment, on peut s'arrêter pour prier pour les personnes, mais quand Dieu t'a donné, n'oublie pas de donner. J'ai vu des gens enlever leur manteau pour mettre à des personnes qui étaient sans abri. Et des fois, quand on voit ces gens, la surprise, c'est des fois de voir que ce sont des gens qui ne connaissent même pas Jésus, mais qui le font. À plus forte raison, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous avons l'association Rayons de Lumière qui intervient pour aider ceux qui sont démunis. Et pour Rayons de Lumière, tous les points que nous voyons que Jésus cite, c'est comme si le Seigneur nous montre déjà l'objectif, ce qu'il faut faire pour cette association, qui il faut aller voir. Mais dans Rayons de Lumière, il y a des personnes. Et les personnes qui sont dans Rayons de Lumière, c'est vous et moi. Et Dieu attend de chacun d'entre nous d'agir selon ce qu'il a écrit dans sa parole. On ne peut pas, on vient de regarder une vidéo, on ne peut pas faire couler son eau à la maison, faire couler son bain, sans avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas ce privilège. On ne peut pas. C'est une responsabilité pour chacun d'entre nous et c'est une responsabilité aussi d'agir. Il faut prier d'abord, mais ensuite, il faut agir. Jacques 1, 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » À se préserver des souillures du monde. Puisque nous sommes dans le vêtement, je vais encore faire aussi une petite aparté sur le vêtement. Mes chers amis, bien-aimés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, comment se fait-il que des fois on retrouve dans l'Église des habillements qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu? Comment ça se fait? Comment peut-on venir dans une Église à moitié habillé? C'est biblique ça? Comment, jeune fille, t'habilles-tu de façon à ce que lorsqu'on te voit et qu'on voit quelqu'un qui se prostitue dans la rue, on n'arrive pas à vous distinguer? Est-ce normal? Comment, jeune homme, t'habilles-tu comme si tu venais montrer tes pectoraux à tout le monde et pourtant tu viens dans l'Église? Non, mes chers amis, vous savez, ces choses, il faut aussi qu'on en parle. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est une nature rebelle, voyez-vous. Si tu veux être en petite tenue, c'est pour quelles circonstances? C'est quand tu te maries et tu es avec ton mari. La Bible l'a prévu. Hein? La Bible a prévu que tu t'habilles de façon à susciter, que dit le monde? À exciter, voilà. Celui qui est en face de toi, que Dieu t'a pris comme mari ou comme femme. Mais mes chers amis, Dieu ne t'a pas demandé d'exciter toutes les personnes que tu rencontres sur ta route en allant à l'église. Vous comprenez? Ce n'est pas biblique. S'il y a quelqu'un que tu dois réveiller, c'est quand tu vas te marier, tu auras ton mari, mais habille-toi d'une certaine façon où tu vois quand le monsieur ne te regarde plus assez. Vous savez, nous les hommes, au bout d'un certain nombre d'années, là, bon, les yeux, je ne sais pas, bon, on ne regarde plus la femme de la même façon. C'est à ce moment-là que tu dois utiliser ces choses pour le réveiller. Et toi, monsieur, comment se fait-il que tu vas t'habiller d'une certaine façon quand tu vas à certains endroits, mais quand c'est pour plaire à ta femme, ah non, c'est bon, hein. Non, cette chemise-là, c'est bon. Non, 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 mon ami. Dans le mariage, c'est ce que Dieu a prévu. Et d'ailleurs, remarquez que les textes nous disent, quand vous voyez même Rebecca, Isaac ne l'avait pas vue. Hein? Isaac n'a jamais vu les formes de Rebecca. Hein? Il ne savait pas comment elle était physiologiquement. Mais lorsqu'on a emmené Rebecca de loin, Isaac est sorti. Il a bougé. Si tu penses que c'est en t'habillant comme ça que celui qui passe va te regarder, c'est faux. C'est faux. Au contraire, il en a regardé beaucoup comme ça. Justement, ce que tu caches sera une découverte pour lui à un certain moment et ça va renforcer encore votre lien. On doit s'habiller décemment pour montrer notre appartenance à Christ. C'est très important. Tes habits véhiculent aussi la bonne nouvelle. Retiens-le, tes habits véhiculent aussi la bonne nouvelle. De la façon dont tu vas t'habiller, les gens peuvent être interpellés autour de toi. D'ailleurs, c'est très surprenant, les gens du monde sont malins. Nike a prévu de faire un voile pour 2018, un voile pour les femmes. Bon, quand vous regardez, au niveau cosmétique, c'est pas mal. Hein. Les gens du monde... Même les gens du monde se rendent compte qu'il y a un besoin sur ce type de sujet. Donc celui qui est croyant doit se comporter selon ce qu'il lit dans la parole. Et si la parole dit que tu dois t'habiller de façon décente, habille-toi de façon décente. Mais c'est la même parole qui dit « recouvre-toi de bonnes œuvres ». Vous suivez? Au lieu de mettre le gros maquillage ou de te blanchir la peau, le Seigneur t'emmène sur tes œuvres. Ce sont les œuvres qu'il regarde et c'est par celles-là que tu vas être agréable à ton Dieu. Donc ton produit de cosmétique qui te coûte 400 euros, si les mêmes 400 euros tu les utilises pour aider les pauvres dans le monde, je pense que tu feras une grande chose devant Dieu. Devant Dieu. Le Seigneur nous appelle à changer nos comportements. Ensuite, il dit, je suis malade et tu m'as soigné face à la maladie. Un moment difficile, un moment très difficile. Parce que des fois, lorsqu'on est croyant et qu'on traverse des moments de maladie, on se pose mille et une questions. Pourquoi est-ce arrivé? Il y a beaucoup de pourquoi. Mais voyez-vous, la Bible te dit qu'en toutes circonstances, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ce qui t'arrive, parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis ces choses. Oh, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie. J'ai vu des choses extraordinaires. Je peux citer cet exemple. Lorsque la fille de Christelle et Benjamin est née, Elena, elle avait le bras qui ne bougeait plus. C'était inquiétant. Nous avons prié. Que s'est-il passé après? Vous voyez cet enfant courir aujourd'hui. Pouvez-vous savoir qu'à sa naissance, elle avait un bras qui ne bougeait pas? L'Éternel est un Éternel des armées. Ce qu'il fait est bon et nous ne pouvons pas contredire Dieu. Et si l'Éternel te dit dans sa parole, on a Marc 16, « Quand quelqu'un est malade, mets ta main, impose les mains au nom de Jésus-Christ, obéis. » Obéis. Quand l'Éternel te dit dans le livre de Jacques, si tu es malade, appelle les responsables de l'église pour qu'ils puissent prier pour toi, obéis. Ne cherche pas à dire, ouais, celui-là, bon, est-ce qu'ils seront disponibles, peuvent-ils venir? Non, obéis à ce que dit la parole. Et lorsque l'Éternel, vous voyez, c'est le Seigneur qui donne le discernement, parce qu'encore une fois, il y a des personnes pour qui nous avons prié, nous avons imposé les mains qui ne sont pas guéries. Et il y a des personnes pour qui nous avons imposé les mains qui ont été guéries. Parce que qui guérit ? Ne vous faites pas d'illusions là-dessus. Ce n'est pas celui qui est en face de vous qui guérit. Ce n'est pas le serviteur qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser au début du message, pour que vous compreniez bien la tonalité de ce message. Dites-vous bien que le serviteur qui annonce le message est assis avec vous pour entendre le message. Je dois entendre ce que Dieu me dit, moi le premier. Dans Actes des Apôtres, acte 3, versets 1 à 11, les apôtres vont vivre quelque chose d'incroyable. Lorsque Christ était parmi eux, la surprise était de voir que les gens se jetaient aux pieds de Jésus. Ça, c'est une particularité. Les gens se jetaient aux pieds de Jésus pour être guéris. Les gens se jetaient aux pieds de Jésus. Je te rappelle ce matin, est-ce que tu te jettes aux pieds de Jésus ? Même Jairus, qui était responsable dans la synagogue, lorsqu'il a vu Jésus, sa fille était mourante, il s'est jeté à ses pieds. Vous comprenez le sens du fait de se jeter aux pieds de Jésus pour obtenir miséricorde. Parce que nous sommes indignes d'avoir quoi que ce soit venant de Jésus. C'est indigne, puisque nous sommes pécheurs. Mais tu te jettes aux pieds de Jésus dans une attitude de soumission pour que Dieu agisse dans ta vie. Pour que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Acte 3, versets 1 à 11. Les apôtres ont vu Jésus guérir, mais leur surprise, c'est de voir que désormais, eux aussi peuvent guérir au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. La gloire à Jésus, parce que Jésus fait grâce. Il fait grâce de guérir, mais il fait grâce aussi à certains moments de ne pas guérir. C'est sa volonté qui se manifeste. Et il y a un autre texte dans 1 Corinthiens 11 qui nous rappelle que lorsque vous ne prenez pas assez de Sainte-Seine dans vos communautés, c'est là où la maladie entre. Vous comprenez que la parole de Dieu, elle est faite pour être appliquée. Si tu es malade, n'oublie pas aussi de prendre la Sainte-Seine. Ça guérit. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. À un certain moment, n'écoutez pas le serviteur, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si tu as lu, si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Si tu doutes, c'est que le malin est en train de faire un travail sur toi. Et si tu doutes, tu opposes la volonté de Dieu à se manifester dans ta vie. Ensuite, il est dit, à part le malade qu'il faut visiter. Donc voilà le plan, le schéma que le Seigneur donne. Vous voyez que même pour l'association, nous avons visité les pauvres. Mais il faut visiter les malades. Et maintenant, on arrive aux prisonniers. Il faut aussi visiter les étrangers, on en a parlé. Ça aussi, c'est une partie que le Seigneur nous attend là-dessus. Maintenant, on parle des prisonniers. Mais déjà, il faut vous souvenir que nous avons des frères qui sont prisonniers. Nous avons des frères dans la foi qui sont prisonniers. Si vous allez sur des sites comme Église persécutée ou Le Fil Rouge, vous allez avoir des témoignages de pasteurs, de frères qui sont au Pakistan, en Inde, qui sont emprisonnés depuis des années, qui souffrent, qui sont en Somalie, qui souffrent. Ces frères ont besoin de nous, ces frères ont besoin de nos prières. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsque lui-même est devenu prisonnier, vous comprenez, Christ était prisonnier aussi. Vous voyez le clin d'œil, Christ était prisonnier. Il fallait aller le visiter, il fallait avoir du courage pour aller le visiter. C'est pour ça qu'au départ, les apôtres avaient peur. Et quelque part, aucun d'eux n'a pu le visiter étant prisonnier. Mais Christ nous appelle à aller vers ceux qui sont en prison. Nos frères qui sont en prison, mais ceux qui ne connaissent pas encore Christ aussi, qui sont en prison, pour leur annoncer la bonne nouvelle. 2 Timothée 1,16, voici ce qui est dit, « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onicéphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Lorsque tu pries pour un frère emprisonné à des kilomètres, tu ne peux pas savoir l'impact que va avoir ta prière dans la vie de ce frère. Tu ne peux pas savoir comment ce frère va vivre la situation de difficulté qu'il va vivre. Et je vous rappelle aussi que la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même a dit, si à moi ils ont fait ça, ne soyez pas surpris qu'ils vous fassent de même. Ne sois pas surpris un jour d'entrer en prison parce que tu parlais de Jésus-Christ. Ne sois pas surpris parce que le malin peut t'attaquer sur ce plan-là. Ah, mes chers amis, vous savez, on est souvent surpris de voir les témoignages. Encore une fois, tout à l'heure, on a vu le témoignage de Zachée, mais j'ai entendu parler d'une vidéo de l'exécution de personnes qui ont été exécutées par Daesh en Égypte. C'était des Coptes. La télé a parlé de leur exécution. On a juste montré l'image quand on les emmenait vers le peloton pour être égorgés. Mais la télé n'a pas dit ce qu'ils ont dit avant de mourir. Avant de mourir, ses frères ont remercié Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Avant de mourir, ils ont remercié Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie que tu nous donnes cette foi. Parce que moi, je n'y suis pas. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je n'y suis pas. Je n'y suis pas encore. Seigneur, affermis-nous pour que nous ayons la force que tes apôtres ont eue de vaincre la mort. Parce que Jésus dit que tu as vaincu la mort. Encore faut-il que dans ton cœur, tu aies cette conviction que tu as vaincu la mort. Ceux-là sont morts en prononçant le nom de Jésus avant de se faire couper la tête. C'est de la même façon que les apôtres ont tous pratiquement été exécutés. Vous savez que sur 12 apôtres, il n'y a que Jean qui n'a pas été exécuté. Les 11 ont tous été décapités. Maintenant, voyez-vous, si vous regardez les choses sous l'angle spirituel, vous pouvez dire, c'est une grâce de mourir comme Jésus. Puisque tu as suivi Jésus, si tu meurs comme lui, c'est une grâce. Hein? Vous n'êtes pas convaincu. Dieu pourvoira. Sur l'association, en tant que croyant, sur le sel, je vous invite à aller voir sur le site du sel. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des besoins de prière ou sur le fil de fil rouge, le site de fil rouge. Il y a des besoins de prière. Il y a aussi des besoins matériels. Si vous pouvez donner, n'hésitez pas à donner. Ce que je sais du sel, c'est que c'est une association que j'ai connue il y a quelques années. Dieu a fait grâce qu'un frère me fasse découvrir cette association. Et avec ce frère, nous avons adopté, chacun a adopté un enfant. En fait, à travers le sel, vous pouvez aussi adopter un enfant. Et tous les mois, vous pouvez donner 16 euros pour subvenir aux besoins de cet enfant. Donc ça, c'est aussi une possibilité d'aider quelqu'un dans le monde. Vous savez, moi, je suis toujours choqué de la parole de Christ parce que Christ nourrit 5000 personnes. Et ma difficulté ce matin, c'est de comprendre qu'avec l'argent que j'ai, je peux nourrir 5000 personnes dans le monde. Vous pouvez nourrir 5000 Indiens. Vous pouvez nourrir 5000 Burkinabés. Si vous envoyez 400 euros, c'est assez suffisant pour nourrir des milliers de gens. Vous comprenez là où la dimension de Christ, là où Christ nous emmène, les choses du Seigneur sont terribles. Parce qu'il te met face à son évangile et il te demande où en es-tu ? Où en es-tu ce matin ? Avec le fait d'aider peut-être ta famille qui est restée en Afrique ou ta famille qui est partout dans le monde. Où en es-tu ? Pour aider tes frères, peut-être que tu as un collègue de travail qui est emprisonné par le péché. Vous comprenez, la prison, ce n'est pas seulement matériel. On peut aussi parler de prison spirituelle. Où en es-tu dans le fait d'apporter l'évangile autour de toi? Est-ce que tu prends le temps de jeûner, de prier pour ces sujets, pour que Dieu te rende efficace dans son ministère qu'il a choisi pour toi? Est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu? Vous savez, des fois, ça c'est une particularité aussi de notre nature. Moi le premier, Seigneur, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aller là, je veux bouger là. Mets-toi à genoux et dis, Père, que dois-je faire? Ce qu'a fait Josué devant l'ange de l'Éternel. Josué n'a pas dit, nous allons attaquer Jéricho comme ça. Donc nous, on va être à gauche, cela, à droite. Non, il a dit, Seigneur, que devons-nous faire? Et ce matin, peut-être que c'est ta prière. Père, que dois-je faire pour aider? Et le Seigneur te montrera comment aider. Ça ne signifie pas que tu ne vas pas aider, mais ça signifie que par l'Esprit de Dieu, tu aideras mieux celui qui est démuni. Et voyez-vous, je termine par ce texte. Il faut que je vous explique aussi pourquoi je lis souvent des textes en longueur, parce que la parole est une eau vive, vivifiante. C'est-à-dire qu'il faut lire la parole pour que ça entre à l'intérieur de nous. Quand j'interprète la parole, ce n'est pas toujours sûr qu'elle entre à l'intérieur de vous. Mais quand je lis un verset biblique, il entre à l'intérieur de vous. C'est pour ça que le malin s'offusque de nous voir lire la Bible. Quand tu lis la Bible, cette parole entre au plus profond de toi et elle produit un effet. Lorsque Paul s'est présenté devant Pierre, Jean et Jacques, qui étaient ceux qui étaient la colonne de la chrétienté, ceux qui avaient vraiment autorité, et bien la surprise, c'est de voir dans Galates 2 que les trois reconnaissent le ministère de Paul, mais il lui rappelle une chose. Il lui dit, va évangéliser aux païens, mais n'oublie pas les pauvres. Galates 2. 14 ans après, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par des œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce matin, si tu as un sujet de prière pour toi, après tout ce qui vient d'être dit, je t'invite à la prière à la fin du culte. Tu peux venir me voir, tu peux venir voir Jérémia. Je t'invite aussi à la prière, si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce message t'a touché et que tu ne veux pas être parmi ceux qui n'ont rien fait pour le prochain, je t'invite à venir nous voir à la fin du culte pour que nous puissions prier ensemble. Je vais prier. Jésus, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour